Il est 7h.
On nous dit que les stocks ne sont pas énormes. Là, ça se compte en jours de stock pour ce type de médicament. S'il y a une rupture de curare, c'est dramatique.
Pas assez de curare, pas assez de morphine, pénurie de médicaments en réanimation. 9 grands hôpitaux européens lancent un appel à l'aide. Les hôpitaux français où on en vient à utiliser des masques de snorkeling Décathlon pour pallier le manque de matériel. Nous serons en direct avec un chirurgien de l'hôpital Henri Mondor. La préfecture de Seine-et-Marne appelle les réfugiés à la rescousse pour venir prêter main forte aux agriculteurs et ils sont heureux de répondre présent.
Quand je suis arrivé ici, je n'avais rien. Le gouvernement français m'a aidé. Je veux travailler pour rendre l'appareil.
L'enfer du confinement pour les enfants victimes de parents violents. Enquête Europe 1 de Salomé Legrand à suivre dans ce journal. Et puis, c'était le pape de Marseille, pape Diouf, qui a dirigé l'OM pendant 4 ans et mort des suites du Covid-19 à Dakar. Tristesse des supporters.
Ça crée une grande tristesse parce que c'est un président emblématique à l'OM. Et ouais, ça fait vraiment mal au cœur aujourd'hui de perdre une icône comme ça.
À votre invité à 7h40, Mathieu.
Danger de l'automédication, pénurie de certains médicaments, gestion des produits de santé à l'hôpital. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament, Dominique Martin, en direct sur Europe 1 à 7h40. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Près de 500 patients décédés dans les hôpitaux français ces dernières 24 heures, 3500 morts, plus que les chiffres officiels chinois, mais aussi, c'est positif, plus de 9000 patients sortis guéris de l'hôpital.
Les services de réanimation manquent de bras. D'ailleurs, le directeur général de la santé a encore lancé hier soir un appel aux volontaires. On le sait moins, mais il y a aussi pénurie de médicaments essentiels en réanimation.
Et oui, les 9 plus grands hôpitaux d'Europe lancent l'alerte. Ils demandent à leur gouvernement plus de coopération, notamment l'assistance publique hôpitaux de Paris. Ils seront bientôt à court et veulent des mesures d'urgence. Où en est-on dans les hôpitaux français, Virginie Salmen ?
Eh bien, des chefs de service de réanimation décrivent une tension sur des médicaments comme les curares, qui servent à paralyser les muscles respiratoires pour pouvoir intuber les malades sévères. À l'hôpital Saint-Antoine à Paris, le professeur Bertrand Guidet surveille attentivement l'état des stocks.
On nous dit que les stocks ne sont pas énormes et qu'effectivement, ils activent la chaîne de production. Mais ça, c'est des médicaments absolument indispensables et pour lesquels il n'y a pas de substitut vraiment possible. Là, ça se compte en jours de stock pour ce type de médicament. S'il y a une rupture de curare, c'est dramatique.
Et avec un tel afflux de patients dans un état grave, la consommation d'hypnotiques et de morphiniques pour endormir les patients et soulager la douleur n'ont jamais été aussi fortes. Alors, les médecins doivent passer en mode médecine de crise, comme le professeur Bruno Mégarban, chef de la réanimation de l'hôpital Lariboisière.
C'est pas simple, nous devons essayer d'affiner au mieux les dosages. Donc plutôt que de prescrire des doses stables, adapter en permanence la posologie. Parfois mélanger deux médicaments dans une même seringue électrique, parce que nous manquons de seringues électriques.
Pénurie aussi de cathéters, de respirateurs et même de tuyaux pour respirateurs. On ne jette plus une ampoule de curare, me disait un médecin. On l'utilise jusqu'à la dernière goutte.
Sujet édifiant de Virginie Salmen, manque de médicaments et bien entendu manque de matériel. Hier, Emmanuel Macron s'est engagé à passer à la vitesse supérieure. Il promet 4 milliards d'euros pour financer des commandes de médicaments, de masques et de respirateurs.
En attendant, pour gérer l'urgence, c'est un peu le règne de la débrouille, comme ces masques de snorkeling Décathlon qui couvrent tout le visage et qui, avec l'aide de l'impression 3D, peuvent être branchés au respirateur.
Bonjour Romain Bosque.
Bonjour Mathieu.
Docteur Romain Bosque, chirurgien plastique à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, et alors que vos opérations sont suspendues, vous travaillez donc à fabriquer en impression 3D, au cœur même de l'hôpital, cette petite pièce qui permet de transformer le masque, ce masque de plongée, de snorkeling. On en est là à devoir bidouiller des masques Décathlon ?
Oui, on améliore les procédés qui ont été développés par les Italiens pour pouvoir les adapter au système de ventilation qu'on propose là actuellement aux patients avant et pour éviter l'incubation.
Alors, c'est aussi une illustration des initiatives que suscite cette crise de la solidarité. Décathlon, par exemple, a bloqué les ventes de ce masque pour les réserver au personnel de santé. Vous avez aussi accès à tous les plans du produit dans le détail, en 3D. Tout est fait pour que vous y arriviez, en fait.
Exactement, ils ont délivré ces plans et les projets de plans à une équipe italienne qui a pu, avec ça, designer des raccords. Et avec ce design qu'ils ont mis en partage, on a pu nous-mêmes le modifier et par conception assistée par ordinateur et ensuite l'imprimer en 3D. Et actuellement, nous faisons des tests sur simulateur.
Alors, il y a une petite pièce, voilà, à fabriquer en impression 3D qu'on ajoute sur ce masque. Je ne rentre pas dans le détail, bien sûr. Et ça permet de transformer ce masque, en tout cas de pallier le manque de respirateurs. C'est une vraie solution ?
Alors, c'est une solution en mode dégradé, hein. C'est toujours mieux d'utiliser le matériel qui a été fait pour ça. Le problème, c'est que les masques de ventilation non invasive, de la même manière qu'il y a une tension sur les médicaments et les curares, comme vous avez dit dans votre reportage précédent, il pourrait y avoir une tension sur ces masques qui sont bien utiles chez les patients qui arrivent en détresse respiratoire.
Merci beaucoup, docteur Romain Bosque, médecin chirurgien plastique à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, de nous avoir parlé de cette initiative de manière concrète, puisque vous essayez de tout garder au cœur de l'hôpital, je le reprécise, et de fabriquer cette pièce à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Merci beaucoup. 7h06 sur Europe 1. Vous le savez, le ministre de l'Agriculture en a appelé à l'armée de l'ombre pour venir en aide aux agriculteurs qui manquent de main d'œuvre. De son côté, la préfecture de Seine-et-Marne a demandé le renfort des réfugiés dans les champs pour assurer les récoltes.
Et oui, mobiliser les réfugiés, une formulation qui a pu choquer certains. Ils voyaient une réquisition, mais il n'en est rien. Théo Manval, 70, ont déjà répondu à l'appel et tous ont des contrats de travail.
Oui, des contrats de travail pour réfugiés volontaires, comme Zabioula. Il vient d'Afghanistan. Il a obtenu l'asile en juillet dernier. Il est donc en situation régulière en France. C'est la condition pour pouvoir participer. La deuxième, c'est de se porter candidat. Lui n'a pas hésité une seconde.
Quand je suis arrivé ici, je n'avais rien. Le gouvernement français m'a aidé. Maintenant, j'ai des papiers et je peux vivre en France. Donc c'est à mon tour d'aider. Je veux travailler pour rendre l'appareil.
Les embauches se feront en CDD, comme pour les saisonniers habituels, rémunérés à hauteur du SMIC. Les associations de soutien n'y voient que du positif. Ce sont des gens qui ont souvent du mal à trouver un emploi, à s'insérer, explique Delphine Leclerc, coordinatrice d'un centre d'hébergement près de Melun.
Il y en a qui étaient en attente d'une activité professionnelle, qui étaient dans des démarches justement pour travailler leur insertion, et tout s'était arrêté. Et donc là, d'avoir cette opportunité-là, pour eux, c'est un plus.
Pour Zabioula, ce sera même un rappel des récoltes qu'il faisait plus jeune avec son grand-père près de Kaboul. Même si pour la Seine-et-Marne, rappellent les agriculteurs, il va falloir encore patienter quelques semaines.
Théo Manval, et pour tous les volontaires qui veulent aider les agriculteurs, il y a toujours la plateforme des bras pour ton assiette. Plus de 150 000 personnes ont déjà répondu présent. 10 jours de décalage pour la déclaration de revenus annoncée hier soir de Gérald Darmanin, ministre des Comptes Publics. Ce sera à partir du 20 avril au lieu du 9. Et pour les déclarations papier, la date limite passe au 12 juin, un mois de plus que prévu. Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 étaient réunis par visioconférence. Hier, ils ont promis d'aider les pays pauvres à supporter leurs dettes.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Pour répondre à la crise du Covid-19, tous les pays mobilisent des sommes considérables. C'est votre éclairage éco ce matin. Où est-ce qu'on va trouver tout cet argent ?
Vous avez raison, les sommes sont gigantesques, un peu comme si nous avions des plans Marshall dans tous les pays. L'OCDE d'ailleurs, qui réunit les pays développés, estime que rien que dans la zone euro, nous avons mobilisé dans ces plans largement plus de 10% de toute notre richesse. C'est plus de 1200 milliards d'euros, l'équivalent du PIB de l'Espagne. C'est comme un effort de guerre, il faut éviter l'effondrement de nos économies, les maintenir en vie. Alors où va-t-on trouver cette montagne d'argent ? Eh bien, on va l'emprunter.
Mais qui va nous prêter des sommes pareilles ?
Eh bien, d'abord, des investisseurs sur les marchés financiers, c'est-à-dire d'ailleurs, en fait des épargnants qui ont de l'argent à placer. Et puis, comme cela ne suffira pas, la Banque Centrale Européenne a annoncé qu'elle absorberait en quelque sorte le surplus, ce qui revient à dire, même si elle ne dira jamais comme ça, qu'elle fera tourner la planche à billets. La bonne question, c'est maintenant, et après, comment fait-on pour rembourser ? Alors, je vous livre une piste, on a parlé de guerre. Or, dans l'histoire du monde, toutes les guerres, sans exception, ont été suivies de périodes d'inflation, inflation qui fait que l'on rembourse ses dettes avec de la monnaie qui ne vaut plus grand-chose. Bref, il est bien possible que tout cet argent que nous allons emprunter pour sauver l'économie, eh bien, nous ne le rembourserons jamais complètement.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins, votre éclairage dans le journal de 7h sur Europe 1, et notez-le, dans un peu plus d'une heure, à 8h15, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, sera l'invité de Sonia Mabrouk. Il va répondre ensuite à vos questions. L'échange se poursuit au 3921 et avec le hashtag Radio Ouverte.
Ce chiffre qui illustre ce matin les répercussions de la crise sur notre économie. Le marché auto français vient de connaître une dégringolade historique, plus de 72% en mars. Pour l'ensemble de l'année 2020, les constructeurs prévoient une chute de 20%.
Le huis clos, le confinement entraîne une nette hausse des violences familiales, des femmes battues par leurs conjoints. Mais pas seulement, les associations de protection de l'enfance notent aussi une hausse des appels pour signaler les violences sur des enfants.
Oui, en France, 50 000 enfants sont placés, 300 000 suivis au sein de leur famille. Mais le confinement a donc des conséquences considérables sur l'aide sociale à l'enfance. C'est votre enquête ce matin, Salomé Legrand, bonjour.
Bonjour.
Vous avez pu, et c'est rare, recueillir des témoignages directs d'éducateurs. La plupart sont inquiets.
Oui, d'abord parce que plus de la moitié des signalements de maltraitance viennent de l'école, fermée donc. Ensuite, parce que tous les éducateurs sont maintenant en télétravail avec limitation drastique de leurs déplacements, sauf pour les urgences absolues, les évidences. Pierre est évaluateur dans une cellule de recueil des informations préoccupantes.
C'est le bébé secoué, c'est l'adolescente qui se fait agresser au couteau par sa mère. Voilà. Après, pour le reste, on joue un petit peu la montre. Je mets mon numéro personnel en masqué puisque je n'ai plus accès à ma ligne professionnelle qui est une ligne fixe. Je tente de joindre les familles petit à petit. J'ai des appréhensions. Voilà, certaines familles qui ne décrochent plus, certaines familles qui nous disent tout va bien, mais ils disent tout va bien depuis le début. Et on ne peut pas factuellement leur renvoyer des choses qu'on ne peut pas observer vu qu'on est chacun chez soi.
Sachant qu'ils suivent parfois jusqu'à 80 dossiers chacun, tous n'ont qu'une seule crainte, découvrir des situations terribles à la sortie du confinement.
Et Salomé, il a fallu aussi s'adapter dans les foyers d'accueil.
Oui, soit les éducateurs sont, comme dans certains EHPAD, confinés avec les enfants, sauf que les établissements ne sont pas conçus pour cela, hein, ni même les équipes, puisque théoriquement, il y a école la journée. Du coup, certains départements ont rappelé des étudiants éducateurs spécialisés. Soit on bricole, comme Eric, directeur de centre, qui a dispatché les enfants directement chez les éducateurs et qui en accueille lui-même 3 de 19, 18 et 11 ans.
Je suis directeur, éducateur, veilleur de nuit, homme de ménage, je suis à tous les postes. Personnellement, j'ai qu'un ordinateur. J'ai des enseignants qui m'envoient des tonnes et de trucs à faire. J'en ai un qui est en CAP d'électricité, j'y connais rien. Faut réinventer notre travail, là. Ils découvrent la musique qu'ils n'ont jamais entendue. Ça change un peu du rap. Ils sont complètement différents que quand ils sont dans le centre. Il y a de l'empathie qui naît chez eux. Ça fait 15 jours que je les aime. Qu'un jour que je n'ai pas levé le son de ma voix, c'est vachement intéressant ce qui se passe.
L'un a même demandé à rester après le confinement, mais pas sûr, dit le directeur.
Merci Salomé Legrand, vous retrouvez la version longue de cette enquête sur notre site europe1.fr. Aux États-Unis, on déplore 4000 morts, chiffre qui a doublé en 3 jours seulement.
Oui, Donald Trump, qui jusqu'ici avait tendance à minimiser, a changé de ton hier soir lors de sa conférence de presse à la Maison Blanche. Les États-Unis vont faire face à 2 semaines très, très douloureuses, a-t-il dit, avec entre 100 000 et 240 000 morts si les restrictions actuelles sont respectées.
Notre pape est mort, titre ce matin à la une de l'Équipe, avec une photo de Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, décédé hier à Dakar des suites du Covid-19. Il avait 68 ans.
Pour l'OM, il restera à jamais dans le cœur des Marseillais, comme l'un des grands artisans de l'histoire du club. « Pape a été mon ange gardien pendant toute ma carrière », écrit Basile Boli, ancien défenseur de Marseille, un très bel ami. Sa voix unique me manquera à jamais. Elle manquera aussi aux supporters comme Lucas, qui soutient l'OM depuis 25 ans.
Ça crée une grande, grande tristesse parce que c'est un président emblématique à l'OM. C'est le plus grand depuis Tapie. Hein. Quand il était à la tête du club, le club était toujours en haut. On a joué à la Ligue des Champions quasiment tout le temps quand il était là. Il nous a ramené des joueurs incroyables comme Mandanda, Ribéry. Et puis c'est surtout cette image quand on monte à Paris et qu'on va faire 0-0 là-bas avec les Minots. Puis c'est surtout la rivalité qu'il a su remettre, la ferveur face à Lyon, face au PSG, et garder vraiment cet esprit olympien. Plus que tout, vraiment, c'est l'image que j'ai de Pape Diouf, de son passage à l'OM. Et ouais, ça fait vraiment mal au cœur aujourd'hui de perdre une icône comme ça.
Un supporter de l'OM avec Pierre Herbulot.
Merci beaucoup Hélène Zélani, c'était le journal de 7h. On va reparler de Pape Diouf avec Virginie Fulpin, évidemment, juste après 7h20 sur Europe 1 tout à l'heure. Merci Hélène, il est 7h14.